Bon, rapidement, nous allons méditer la parole de Dieu avec le temps qui nous reste. Pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Juges, dans l'Ancien Testament. Juges chapitre 6. Bon, nous ne lirons pas tous les chapitres 6, parce que le texte sera long, mais nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Ensuite, vous pouvez lire à la maison le début jusqu'à la fin de ce chapitre, parce que c'est très intéressant. Alors, donc, Juges chapitre 6, verset 11, à partir du verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Le verset 11. Puis vint là l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains des Madians. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Le verset 17, Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps précieux que tu nous as accordé par ta grâce pour pouvoir encore une fois de plus contempler les merveilles de ta loi. Parle au-dedans de nous, Seigneur, et instruis-nous, parce que tu es un Père qui parle à ses enfants. Merci, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc il s'agit de l'appel de Gédéon, que nous connaissons tous, l'appel de Gédéon. Gédéon est appelé à être juge à une époque trouble en Israël, une époque d'instabilité en Israël. Les Israélites assistent impuissants à la destruction de leur terre et leur vie est en danger. La situation n'allait pas bien. Les conditions dans lesquelles ils étaient n'étaient pas bonnes. Voici comment la Bible décrit leur situation. Si nous remontons un tout petit peu à partir du verset 2, la Bible décrit leur situation ou leur condition que c'était une situation dramatique et sans avenir, une situation de désespoir dans laquelle ils se trouvaient. Voici ce que la parole de Dieu dit à partir du verset 2, toujours du chapitre 6. La Bible dit ceci. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans le ravin des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait, ce peuple montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Voilà leur situation, les conditions dans lesquelles ils étaient. Imaginez, vous plantez vos fruits, des légumes, et dès que ça pousse, boum, le peuple ennemi arrive à aller, hop là, ils ravagent tout, ils prennent tout, et vous restez avec rien du tout. Rien du tout. C'était ça leur situation. Ils vivaient cela. Et leur condition est résumée même au verset 6. Si nous descendons un peu en bas, au verset 6, il est dit ceci: Israël fut très malheureux à cause des Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ah, le peuple de Dieu, ils sont malheureux. Ils étaient, comme on dit en français, au bout du rouleau. Ils étaient au bout du rouleau. Mais il y a une question que nous devons nous poser. Pourquoi ils sont arrivés jusqu'à ce niveau-là? Pourquoi ils étaient dans cette situation? Vous savez, des fois aussi dans notre vie, nous arrivons des fois à des moments, des situations où on est au bout du rouleau, on ne voit plus le bout du tunnel. Des fois, nous devons nous poser la question, pourquoi je suis en arrivé là? Pourquoi? Pourquoi cette situation devant moi? Et c'est ce qui se passait à l'époque avec les enfants d'Israël. Pourquoi ils étaient dans cette situation? La réponse est simple. C'était à cause de leur désobéissance. C'est à cause de leur désobéissance. Si nous remontons encore au chapitre 6, le premier verset du chapitre 6, voici ce que la parole de Dieu dit au verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madian. Pendant 7 ans, ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Voilà. Le problème principal pour eux, c'était quoi? Qu'ils avaient exclu Dieu. Ils faisaient des choses à leur manière, comme ils veulent, sans Dieu. Sans Dieu. Vous savez, faisons très attention. Quand nous vivons des situations où on est guidé, on est dirigé par nous-mêmes, là où on exclut Dieu, il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences. On fait des choses sans Dieu. On se sent peut-être beaucoup plus intelligent que Dieu. On se sent peut-être beaucoup plus sage que Dieu. Ben, ne vous étonnez pas qu'on puisse en arriver là. Qu'on puisse en arriver là. Oui, ils crièrent vers l'Éternel, mais ils ne croyaient pas que Dieu les écoutait, ou peut-être que Dieu était capable de leur venir en aide. Mais quand ils crièrent à Dieu, Dieu les a écoutés. Voici la réponse de Dieu à partir du verset 7. Le verset 7 dit ceci, verset 7 jusqu'au verset 10. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Voilà la réponse de notre Seigneur. Ils ont passé une période de pauvreté, de persécution et d'impuissance pour Israël. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une situation que vous voulez faire quelque chose pour aider, mais vous êtes impuissant. Vous êtes impuissant. Vous êtes impuissant. Il y a deux mois ou trois mois, je crois, il y a mon cousin qui m'a appelé du pays. Bon, il avait aménagé dans un quartier un peu chaud, mais il n'avait pas le choix parce que c'est là où il a acheté sa maison qui coûtait, bon, en fonction de ses moyens. Et il y a eu des brigands qui sont rentrés à la maison. Ils commencent à tabasser les enfants, tabasser sa femme pour exiger de l'argent. Il dit, Marcel, j'étais impuissant, j'assistais comme ça. Impuissant. Ça fait très mal. Impuissant. Et c'était la situation des enfants d'Israël. Le peuple ennemi, il vient, il ravage tout. Ils prennent toute la récolte. Vous assistez. Vous êtes moins fort, mais par rapport à eux. Oui. Mais Dieu leur envoie un prophète pour leur rappeler sa grâce et les appeler aussi à la repentance. C'est le message que le Seigneur leur envoyait au verset 10. Non seulement Dieu a un message pour eux, mais Dieu a aussi un homme qu'il a choisi pour sauver, pour les sauver. Et cet homme, c'est Gédéon. Cet homme, c'est Gédéon. Vous savez, frères et sœurs, Dieu n'agit pas sur la foule infidèle. Nous pouvons être 500 personnes, jamais. Dieu n'agit pas sur la foule infidèle. Son plan de salut passe toujours par un homme mis à part. Nous pouvons être 10, nous pouvons être 50, nous pouvons être combien? Il y a toujours un homme que Dieu a mis à part où son plan va passer. Comme Moïse, par exemple, comme Abraham, comme Noé, nous pouvons citer beaucoup d'exemples. Et Dieu choisit qui? Je me suis posé la question, d'accord, oui, mais bon, Dieu a ses critères, mais Dieu choisit qui? Il a choisi Gédéon. Mais voyons au verset 15. Dieu a choisi quel genre d'homme? Au verset 15. Dieu a choisi quelqu'un de la tribu de Manassé. J'ai essayé de fouiller dans le dictionnaire biblique pour savoir les tribus de Manassé. Certains commentateurs disent que c'est une petite tribu. D'autres disent que c'est une... J'ai oublié. Demi-tribu. Ah bon, demi-tribu. Donc, ce n'était pas vraiment une tribu, un genre. Bon, c'est la tribu d'Alexandrie. Ah, on connaît Alexandre Albert, Alexandre Jacques. Ah, mais non, ce n'était pas cette tribu-là. Une tribu, demi-tribu. Petite tribu. Ça, c'est le verset 15. Toujours le verset 15. Ils disent que Dieu a choisi qui? Quelqu'un de la famille la plus pauvre. C'est ce que nous lisons au verset 15. Quelqu'un de la famille pauvre. Et plus loin, verset 25, Dieu a choisi qui? Quelqu'un qui vient d'une famille idolâtre. Au verset 25. Il vient d'une famille idolâtre. Et si on lit le verset 17, qu'est-ce qu'on voit? Dieu a choisi quelqu'un de peu de foi, qui demande même des signes, qui demande même des preuves quand Dieu lui parle. Quelqu'un de peu de foi, il demande des preuves, que Dieu lui donne des signes, des preuves, pour qu'il puisse croire que c'est le Seigneur qui lui parle. Oui, Le verset 15 dit, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Famille pauvre, et moi, je suis rien, plus petit, même pas de force, rien du tout, pas de sagesse. Mais Dieu choisit ce genre de personnes. Il choisit ce genre de personnes. Et si nous lisons la suite de l'histoire, Gédéon et sa famille avaient réussi à cacher une petite quantité de blé, donc de blé, pardon. Et Gédéon battait ses blés derrière un pressoir pour les cacher aux mendiants. Sinon, si ce peuple découvre qu'il se cachait là-bas en train de battre ses blés, ils viendront tout prendre. Tout prendre. Parce qu'ils savaient que les mendiants prendraient tous les blés. C'est pour cela qu'ils se cachaient quelque part. Vous savez, il s'est caché. Pourquoi? C'est une image de quelqu'un ou d'un peuple ou d'un homme qui est vaincu par la crainte des hommes. Il craignait les hommes. Il craignait les hommes, il vivait dans la crainte. Pourquoi il vivait dans la crainte et craignait les hommes? Parce qu'on est loin de la volonté de Dieu. Parce qu'on mène une vie loin de la volonté de Dieu. Parce que ce peuple menait une vie qui était en dehors de la volonté de Dieu. Une vie qui n'était pas conforme au commandement de Dieu. C'est normal qu'il puisse avoir peur des gens. Ils craignaient les hommes. Tout cela à cause de leur désobéissance. Mais ce qui est merveilleux, que ce peuple ennemi mendiant ne savait pas où se cachait Gédéon, mais le Seigneur savait où il se cachait. Le Seigneur savait. Oui, le Seigneur avait un œil sur Gédéon tout le temps. Même lorsque lui-même, Gédéon, l'ignorait, Dieu était avec lui, le surveillant et planifiant même son avenir. Se cacher, il battait ses blés, mais il ne savait pas que l'œil du Seigneur le voyait là où il était, dans sa cachette. Vous savez, frères et sœurs, cette vérité doit réconforter nos cœurs. Le Seigneur était avec lui. Le Seigneur voyait toutes choses qu'il faisait. Et nous aussi, nous avons aussi la même promesse aujourd'hui. Que le Seigneur nous a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec nous, il nous voit. Ce que nous faisons, ce que nous disons, notre manière de voir les choses, de faire les choses, le Seigneur voit comme il voyait Gédéon. Gédéon ne pouvait pas le voir, Gédéon ne pouvait pas voir l'Éternel, ni sentir que l'Éternel était avec lui. Mais il ne savait pas non plus qu'il était sur le point d'être utilisé par l'Éternel. Il ne le savait pas. Pendant qu'il se cachait de l'ennemi, le Seigneur savait exactement là où il se trouvait. Et la Bible dit au verset 12 que l'ange du Seigneur lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. C'est merveilleux si on dit ça de moi. Ah, oh Marcel, l'Éternel est avec toi. Ça réconforte. Ça réconforte. L'Éternel est avec toi. Et qu'est-ce que l'Éternel ajoute? Vaillant, fort, vaillant héros. Dans d'autres traductions, il est marqué fort et vaillant homme. C'est l'Éternel qui dit c'est l'ange de l'Éternel qui dit à Gédéon, fort, vaillant homme. Et dans la tradition Louis II, il est dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros. Mais je me suis dit, mais bon, vaillant héros, quelqu'un qui se cache, qui a peur. Mais l'Éternel lui dit, vaillant héros, tu es fort. Ah! Mais c'est un peu contradictoire, mais ce n'est pas contradictoire. Le Seigneur sait pourquoi il dit cela à Gédéon. Oui, l'Éternel est avec toi, fort et vaillant héros. Voici un homme qui a tellement peur de l'ennemi qu'il se cache derrière un pressoir en train de battre le bleu. Le Seigneur l'appelle fort et vaillant homme. Parce que le Seigneur a vu ce que serait Gédéon quand il sera à son service. C'est ça que l'Éternel voyait en lui. L'Éternel ne voyait pas le présent. Mais quand il voyait Gédéon, l'Éternel voyait ce que l'Éternel va faire de Gédéon. Ce que Gédéon sera avec l'aide du Seigneur. Le Seigneur va le façonner. Le Seigneur va le conduire. Il sera à son service et le Seigneur sait ce qu'il deviendra. C'est pour cela qu'il dit que fort, vaillant, héros. Oui, le Seigneur a vu ce que serait Gédéon quand il sera à son service. Mais le Seigneur, il voit Gédéon, il dit fort, vaillant, héros. Mais sa famille, quand il regarde Gédéon, elle le voit comme un petit enfant de la famille. Vous voyez la différence? La famille le voit. Un petit enfant de rien du tout. Mais quand Dieu le regarde, il voit un grand guerrier. Un grand guerrier. Donc il y a une différence de la manière, de la façon dont nous voyons des gens avec nos yeux d'hommes, avec nos yeux humains, et de la façon que Dieu voit, nous voit. Ce n'est pas le même Dieu. Dieu voit autre chose et nous voyons autre chose. La famille voit un petit enfant de rien du tout, mais Dieu voit un vaillant guerrier. Oui, c'est pour cela, frères et sœurs, nos faiblesses, nos infirmités, nos questionnements, nos découragements, nos questions-là du pourquoi, du comment, n'empêche pas Dieu de nous employer, de nous utiliser à son service. Bien qu'on voit que je suis faible, bien que je vois que non, ça ne va pas. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais cela ne doit pas nous décourager. Ce n'est pas ça que ça va empêcher Dieu de nous utiliser, de t'utiliser, malgré tout cela. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est vrai. Mais l'Éternel regarde au cœur. C'est vrai. Surtout nos yeux là, dès qu'on voit quelque chose, waouh, oh mon frère, c'est bien. Mais tu as vu que l'apparence. Est-ce que tu as vu le cœur? Non. Mais Dieu voit le cœur. Dieu regarde au cœur. Donc Dieu est capable de nous prendre tels que nous sommes et de nous transformer en quelque chose de puissant par sa puissance, comme Gédéon. Nous pouvons même citer l'exemple de Saul de Tarse, celui qui est devenu après l'apôtre Paul. Comment Dieu l'a façonné, l'a transformé. Quelqu'un qui persécutait l'Église. Mais quand Dieu l'a appelé, quand Dieu l'a pris, il a façonné à sa manière et il est devenu une autre personne. Frères et sœurs, nous sommes que de l'argile. C'est Dieu qui est le potier. Il prend l'argile, il dit que toi, Marcel, je vais te fabriquer un petit verre. Eh bien, je serai un petit verre. Toi, ma soeur, je vais te fabriquer, tu seras une marmite. Tu seras une marmite. C'est Dieu qui façonne, c'est Dieu qui fabrique, ce n'est pas un homme. Un homme peut dire tout ce qu'il veut, oui, d'accord, mais c'est Dieu qui façonne, c'est Dieu qui transforme. Dieu ne voit pas nos faiblesses présentes, mais ce que Dieu voit, ce que nous pouvons faire avec son aide, c'est ce que Dieu voit. Avec lui, frères et sœurs, nous sommes plus faibles. Avec le Seigneur, Gédéon n'était plus faible. N'était plus faible. Parce que le Seigneur dit au verset 14, on ne va pas tirer toutes les leçons de ce chapitre parce que le temps ne nous le permet pas. Mais on va dire peut-être une chose, que le Seigneur lui dit au verset 14, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. La force de Gédéon avait pour origine l'assurance de la présence de Dieu dans sa vie. L'assurance de la présence de Dieu avec lui. C'est ça qui faisait sa force. C'est pour cela, ne nous lamentons pas d'avoir peu de choses. Oui, des fois, il y a ça. Non. Ne nous lamentons pas d'avoir peu de force. Utilisons ce peu de force-là qui reste là, ce peu de force-là que nous avons. Et Dieu fera le reste. Il y a certains qui disent, ah, je ne peux rien faire, j'ai rien. Non, nous ne pouvons pas dire ça. Parce que quand il a dit, va avec la force que tu as, le Seigneur rajoute à la fin, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Si c'est moi qui t'envoie, je te donnerai la force. Je te donnerai le moyen, je vais t'équiper. Qui va envoyer son enfant à acheter de la baguette à la boulangerie sans lui donner de l'argent? Qui? Personne. C'est-à-dire, tu vas équiper ton enfant pour aller acheter de la baguette et de la boulangerie. C'est ce que le Seigneur fait. Quand Dieu nous envoie, Dieu va nous équiper. Dieu va nous donner la force nécessaire. Dieu va nous donner les moyens nécessaires pour accomplir sa mission. Je n'ai jamais vu une maman ou un papa envoyer son enfant à la boulangerie sans qu'il puisse lui donner 1,20 € ou 2 €. On demande même, la baguette coûte combien maintenant? Ah, ça a augmenté, maman, ça, 1,20 €. Prends 1,20 €. Quand Dieu envoie, il va t'équiper. C'est pour cela qu'il dit à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Frères et sœurs, servons le Seigneur avec le peu que nous avons. Sers le Seigneur, sers ton Dieu avec le peu que tu sais faire, le peu que tu sais faire. N'attends pas qu'il... Non, le peu là. Va avec les dons que tu as. Beaucoup disent, j'ai pas de dons. Non, nous avons tous quelque chose que le Seigneur nous a donné. Nous devons aller avec ça. Ne fût-ce que nos bras et nos jambes. Pour ne citer que cela, frères et sœurs. C'est suffisant pour visiter et aider les autres. Ou venir au temple pour faire le ménage. Rien qu'avec nos mains, là, nos bras, avec nos jambes. C'est déjà suffisant, le peu que nous avons déjà, pour venir faire le ménage, venir faire ceci, venir faire cela pour le Seigneur. Les yeux que nous avons, le peu là, les yeux que nous avons, c'est déjà assez, c'est suffisant pour lire la parole de Dieu peut-être à un païen, à un inconverti. Va avec ce que tu as, le peu que tu as.
C'est ce que le Seigneur dit à Gédéon. Va avec le peu que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie?
Oui, on ne va pas aller trop loin parce qu'il est déjà 20h30. Soyons au service du Seigneur avec le peu de temps que nous avons aussi. Souvent, j'ai pas de temps. Oui, le peu de temps là que tu as, par jour, il te reste quoi? 5 minutes, c'est pas grave. Tu peux le mettre au service du Seigneur. Tu peux faire de grandes choses avec ces 5 minutes-là que tu dis que tu n'as pas tant que 5 minutes dans la journée. Tu peux faire beaucoup de choses pour le Seigneur dans les 5 minutes. Va avec les 5 minutes-là que tu as dans la journée. Parce que tu n'as pas 2 heures de libre de repos. Ok, d'accord, il ne sait pas. Tu as combien de... j'ai que 5 minutes. Okay. Va avec ces 5 minutes-là pour le Seigneur, pour servir le Seigneur. Va avec la santé que tu as, le peu de santé-là. Va pour servir le Seigneur. L'intelligence que le Seigneur nous a donnée, l'intelligence que tu as, va avec cela. Si tu n'as que ça, va avec cela, frères et sœurs, pour servir le Seigneur. Oui, même si nous voyons que le peu que nous avons, ce n'est pas assez, souvenons-vous que le Seigneur dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Le Seigneur fera le reste. Ne nous inquiétons pas, il fera le reste. Que le Seigneur bénisse sa parole.